Bonjour à toutes et bonjour à tous. Troisième jeudi du mois, émission du Grémos. Nous sommes aujourd'hui en présence de Jean-Paul Gachignard et nous allons parler un peu musique et chansons en ce jour de fête de la musique. Jean-Paul Gachignard est conservateur en chef des bibliothèques. Il a travaillé à la Bibliothèque nationale de France, à la médiathèque de Saint-Étienne, aujourd'hui au parc musée de la mine Puy-Couriot. Et surtout, c'est un spécialiste de la littérature ouvrière. Et à ce titre, il a préparé pendant 5 ans l'édition de cette anthologie des chansons et poèmes sur les mines et les mineurs de la Loire 1815-1914. Et nous allons donc l'interroger aujourd'hui sur l'image du mineur, les images du mineur, à travers des chansons écrites sur les mineurs et non pas des chansons de mineurs. Donc Jean-Paul Gachignard, je t'ai présenté et j'aimerais maintenant que tu nous présentes rapidement, tu l'as déjà fait avec Maurice l'année dernière, mais que tu, pour les auditeurs d'aujourd'hui, que tu présentes ce travail.
Oh, le travail, ça fait 2 kilos. Hein.
Oui, 2 kilos.
800 pages, bon, une anthologie, un livre de commentaires, un disque au milieu dont vous allez avoir des extraits dans l'émission. Voilà. Bon, moi, ce qui m'a frappé, donc j'ai travaillé pas mal de temps en fouillant les archives, la Bibliothèque nationale, les établissements à Saint-Étienne, archives municipales, départementales, médiathèques, où il y a beaucoup de choses. Et j'ai trouvé un peu plus de 200 poèmes et chansons sur les mineurs de la Loire au 19e, c'est-à-dire avant la déclaration de guerre de 1914, et avec des images extrêmement différentes. Des mineurs très tristes et des mineurs joyeux, très joyeux. Donc, ma question après, c'était pourquoi ça, comment ça, je suis tombé sur cette idée que j'ai rappelée à propos des cinquièmes rencontres d'histoire ouvrière, que à mon avis, les images tristes des mineurs ont beaucoup à voir avec la religion catholique telle qu'elle était à l'époque. Hein, ça a beaucoup changé depuis.
Alors, images joyeuses, images tristes, c'est finalement le titre du livre, Pauvre mineur. Mineur joyeux, hein, c'est ça. Donc, il y a une évolution dans la présentation de ces images, plutôt de la tendance triste, misérabiliste, vers la tendance joyeuse, ou introduirais comment dirais-je, des modulations dans ce que je viens d'affirmer là.
Ah oui, j'introduis des modulations, oui. Comment dire ? Non, dans les textes, bon, dans les années 1840, puisqu'en fait, le premier texte que j'ai trouvé, c'était en 1826, et il n'est pas dans l'anthologie. Le premier texte de l'anthologie, c'est 1840. On trouve les deux, c'est-à-dire on trouve aussi bien des visions très joyeuses des mineurs, comme celle de Guillaume Roqui, par exemple, le poète Ferblantier de Rivetagier, et on trouve aussi des formes très tristes, comme la chanson de Javelin Pagnon, dont on va parler un peu plus tout à l'heure. Oui. Ça dure pratiquement pendant toute la période, en tout cas jusque vers 1900. Et vers 1900, c'est clairement les images tristes qui prennent le dessus, entre-temps, les formes changent beaucoup, hein, surtout sur un peu moins d'un siècle, les variantes de mineurs tristes, les variantes de mineurs joyeux changent beaucoup. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui reste très majoritairement pour nous aujourd'hui, c'est les images tristes. Si on regarde le film Germinal, c'est des images très tristes des mineurs. Et ma question, c'est pourquoi ?
Alors oui, avant de venir à la question, il y a finalement beaucoup de chansons qui présentent le mineur triste, enfin des chansons tristes et misérables du mineur. Et quand il y a des notations joyeuses, c'est à l'intérieur d'une chanson. Il n'y a pas vraiment de chansons spécifiquement joyeuses, si, quand même.
Ah, si.
D'accord. Si. Bon, on va revenir là-dessus. Ah. Alors, la religion catholique, c'est, ton point de vue, a pesé sur ces thématiques et sur les images aussi que l'on retrouve. J'aimerais bien que tu développes sur les métaphores qui sont utilisées par beaucoup de ces auteurs.
Alors, oui, sur les métaphores, là, je n'ai pas fait de lien entre les images dans les chansons et ce qu'on trouve habituellement dans la religion catholique de l'époque. Non, c'est plus le raisonnement général, c'est-à-dire dans la religion catholique du 19e, c'est-à-dire bien avant Vatican II, la vie sur Terre, elle est dans le malheur, elle est dans la difficulté, parce que de toute façon, la seule chose importante, c'est la piété pour préparer son arrivée au paradis. Mais le bonheur, il est au paradis, il est plus tard. Et comment dire ? Et donc, dans cette vie pleine d'épreuves et de difficultés, les épreuves de la vie sont envoyées par Dieu, et si on répond bien, on gagne sa place au paradis. Mmh. C'est ça le système, je dirais. Alors, je crois qu'on peut écouter la chanson de Javelin Pagnon.
Suspendons au rocher nos lampes souterraines, on donne le signal sous les voûtes lointaines. Frère, c'est l'instant du repos, nos pâles compagnons dans ces tristes royaumes arrivent à pas lents, ainsi que des fantômes qui sortent la nuit des tombeaux, qui sortent la nuit des tombeaux. À l'heure où le sommeil ferme notre paupière, peut-être sur les champs reparaît la lumière. Le soleil brille à l'horizon, mais aucune clarté ne perce notre abîme, pas même vers le soir, le rayon qui ranime le coupable dans sa prison, le coupable dans sa prison. Peut-être sur nos monts naissent les fleurs nouvelles, les clochers ont reçu les vives hirondelles, les prés verdissent pour longtemps, mais notre terre, hélas, ne boit pas la rosée. Vainement de sueur, nous l'avons arrosée, nous n'avons jamais de printemps, nous n'avons jamais de printemps. Pourquoi s'affliger si nos lampes funèbres à peine autour de nous dissipent les ténèbres, font regretter le jour vermeil. Le temps viendra bientôt où sur l'autre rivage, près de Dieu, nous verrons des splendeurs sans nuages qui feront pâlir le soleil, qui feront pâlir le soleil.
Alors Jean-Paul Gachignard, beaucoup de choses à dire sur cette chanson, mais on va peut-être dans un premier temps parler des interprètes. Enfin, il y a plusieurs interprètes dans ce disque-là, c'est Didier Pourra qu'on a entendu.
C'est la troupe du Trouble Théâtre, oui. Qui est une troupe de la Loire, que le directeur du musée à l'époque avait trouvée, et je crois qu'il a fait un excellent choix. Et donc le texte est d'époque, la musique est récente. Alors celle-là est à moitié récente. C'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'au département musique de la Bibliothèque nationale, donc j'ai retrouvé le texte complet dont il y avait des extraits, dans Jean-François Gonon, enfin je ne suis plus très sûr, et j'ai photographié le texte pour l'avoir évidemment, mais je n'ai pas photographié la musique, j'avais la musique mais pas tout, et après ils ont eu... Quand ils ont travaillé là-dessus, ils ont eu beaucoup de problèmes, ce qui est un peu ballot parce que le directeur du département musique, je le connaissais, y compris depuis très longtemps, ses parents étaient amis avec les miens. Mais j'ai pas pu intervenir, ils n'ont pas eu la musique complète. Alors de toute façon, la musique n'aurait pas non plus forcément plu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des... Il y avait au 19e, on est bien avant les micros, on est bien avant les haut-parleurs, il y avait des habitudes aussi. Il y a des musiques de l'époque qu'on supporterait plus du tout aujourd'hui, qu'on trouverait totalement ringarde, totalement insupportable. Mais il n'empêche qu'elle plaisait à l'époque. Hein. Mais de toute façon, elle n'était pas complète.
Donc les arrangements, c'est la pianiste Nathalie Fortin
qui... C'est Nathalie Fortin, oui, voilà. Qui a travaillé sur, je dirais, l'essentiel en fait des musiques. Et c'est l'essentiel des musiques du disque sont dues à Nathalie Fortin, oui.
Alors ce texte, Les mineurs de l'Oural, Jean-Paul, est particulièrement riche en images de ce que tu appelles le pauvre mineur.
Oui, hein, oui, tout à fait. Et puis surtout, il donne la clé, c'est-à-dire que... Bon, alors évidemment, c'est une image romantique du mineur qui ne prétend pas du tout correspondre à la réalité, mais bon, c'est quand même cette image-là qui est donnée. Et surtout, à la fin, dans le dernier couplet, il est très clair. Pourquoi s'affliger ? Si nos lampes font regretter le jour, le temps viendra bientôt ou sur d'autres rivages, c'est le paradis, c'est la vie éternelle, près de Dieu, donc au paradis, nous verrons des splendeurs sans nuages, toujours le paradis, qui feront pâlir le soleil. Alors là, hein, le paradis quand même, c'est très lumineux, c'est clair. Voilà. Et par contre, aujourd'hui, où est-ce qu'on vit ? On vit, les mineurs vivent près du lieu sombre où règne l'ange du mal. Bon, voilà. Les enfers sous terre, ça c'est des mythologies très anciennes, on trouve ça dans l'Antiquité grecque, on trouve ça chez les Romains, enfin bon, c'est pas une originalité de la religion catholique. Voilà, en gros, la vie des mineurs, c'est une métaphore de la peine humaine dans la vie aujourd'hui, et la seule espérance, c'est la piété, c'est la religion.
Oui. Avec l'idée quand même que ces mineurs sont peut-être parmi les ouvriers les plus... maltraités, puisque je vois la strophe, peut-être sur nos monts naissent les fleurs nouvelles, les clochers ont reçu les vives hirondelles, les prés verdissent pour longtemps, mais notre terre, hélas, ne boit pas la rosée, nous n'avons jamais de printemps. C'est-à-dire que c'est les mineurs, pas les autres mineurs, les autres ouvriers, eux, vivent un peu, voient le jour, tandis que les mineurs partent alors que le jour n'est pas encore levé et rentrent alors qu'il est déjà couché. Il y a cette double condamnation, peut-être, non ?
Comment dire, de toute façon, Pagnon, donc hein, là on est en... Alors il écrit dans les années... 1840. On est en 1840, il écrit dans les années 1830, quand il essaye de devenir un jeune poète romantique reconnu, ce qui ne marche pas, il n'y arrive pas. Et bon, il développe les mythologies à tout va, sans demander qu'on prenne cela pour la réalité. Hein,
oui, non, je suis bien d'accord.
Mais
la journée du mineur est quand même extrêmement longue à cette époque-là.
Oui, mais alors de toute façon, dans l'introduction de ces voyages imaginaires parmi lesquels figure cette chanson, il dit « Les mineurs de Sibérie vivent dans leurs mines et ne voient jamais le jour. Ouais. » C'est jamais, jamais. Ouais. C'est y compris les femmes et les enfants. Ouais. Bon, il n'a jamais été dans l'Oural.
Oui. Donc il y a quand même l'idée que la condition ouvrière condamne à un malheur permanent.
Je ne sais pas.
Il ne peut attendre le salut que du paradis.
Je ne crois pas que Pagnon aille aussi loin. Lui-même, alors, dans ses idées politiques, il a pas mal hésité. Il a fait en 1848, avec Babochy, une chanson contre la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III. C'est une chanson absolument hilarante. Et il y en a des extraits dans le livre aussi, dans la notice sur Pagnon. Et puis finalement, il est devenu bonapartiste dans les années suivantes. Et Jean Tibi, dans son livre sur la Société d'histoire, industrie, agriculture de la Loire, rend compte d'un débat où Pagnon s'oppose au fait que les mineurs passent des visites médicales avant l'embauche, parce que ça n'est pas prévu par la doctrine juridique libérale, et lui, c'est un juriste, et il est très libéral à ce moment-là. Donc non, il est très catholique, et déjà dans les années 30, on le voit bien, il n'est jamais politiquement contestataire. Je ne crois pas qu'il donne un rôle particulier aux ouvriers. Je pense que plutôt dans cette affaire, les ouvriers sont un symbole. Les ouvriers et les mineurs particulièrement sont un symbole de la peine humaine, un symbole des difficultés de la vie sur Terre. D'où cette idée. Les prendre. Et alors, en plus, cette thématique, le pauvre est un rôle... c'est le rôle du pauvre dans la religion catholique, c'est une thématique tout à fait courante.
Oui.
Il faut donner aux pauvres. Le pauvre, ça peut être Dieu qui se cache pour voir si on est vraiment bon. Il y a une petite réédition de Bossuet sur la dignité des pauvres.
Oui.
On est
alors,
dans le même monde.
D'autres auteurs ont traité cette question, tous plus ou moins de la même période, des années 1840 à 1870.
Je trouve Poncy tout à fait intéressant et je souhaite qu'on y revienne un peu. Des images tristes, donc on en voit jusqu'à la fin de la période, on en voit de différentes espèces, du triste fantastique, comme chez Léon Vell. Mmh. On voit revenir au début 1900 l'image du mineur, des images très tristes du mineur maudit, là, un véritable maudit. Et là, c'est parfois par des auteurs très proches de la droite nationaliste ou de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'extrême droite,
la droite maurassienne, enfin, ce qui va devenir
oui,
la droite maurassienne.
Maurras est déjà un maître à penser. Oui. Il ne faut pas oublier que Maurras a aussi été un poète et un théoricien de la poésie et qu'il a dû une partie de son crédit à ça. Et alors effectivement, Charles Poncy, donc qui publie un recueil en 1850, un recueil La chanson de chaque métier, où il fait des chansons sur plus de 40 métiers. Une chanson par métier, c'est une espèce d'encyclopédie. Il a une vision très triste des mineurs et en même temps une vision contestataire de la société.
Oui.
Et je trouve ça assez intéressant. Alors, il faut reconnaître, Poncy, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Je vous donne quelques citations. « Moi qui verse à flot l'or sur tous, je meurs de faim faute de quelques sous. Malheureux prolétaire, creuse et fouille la terre, toujours sa soif de ta sueur s'altère. » Un peu plus loin, il parle de l'homicide d'industrie qui affame le travailleur. Ben bon, vraiment, c'est son mineur, il en prend plein la figure.
Et le mineur qui est le bras tendu, auquel on répond seulement par la fusillade.
Ah oui, ça c'est la fusillade d'Outrefuran en 1846.
Voilà.
Pas assez connue à Saint-Étienne, il faudrait qu'on en parle.
Alors, vas-y, je t'écoute.
Oh, ça va être long, il faudrait peut-être une autre émission.
Ah, parce qu'il y a eu plusieurs fusillades dans les années 1840,
tout à fait, tout
notamment
à fait.
Dans la rive de Gier, mais Outrefuran, si tu peux nous donner quelques repères.
Alors, Outrefuran, c'est à la fois une grève, c'est le début d'une grève de mineurs, c'est aussi la première paye donnée au puits du Gagne-Petit, quand le puits du Gagne-Petit... la première paye donnée par la Compagnie Générale des Mines de la Loire, c'est-à-dire le monopole.
Mmh.
Donc il y a toute la polémique du monopole qui a inspiré Proudhon, qui a inspiré Karl Marx, qui a été l'exemple de, d'ailleurs assez mal interprété de loin, mais l'exemple de la tendance du capitalisme au monopole. Donc c'est quand même un exemple historique intéressant. Et alors, le procureur de l'époque ne voulait pas du tout que les mineurs fassent grève. Il en arrête deux, puis il y en a trois qui disent « Non, mais si on arrête nos copains, on vient avec. » Et après, ils vont, comme il y a déjà beaucoup de monde autour, ils se réfugient dans un carreau de mine. Et la troupe arrive pour essayer de les sortir de là. Mais alors, il y a de plus en plus de monde. Et finalement, quelqu'un, très probablement un officier, donne l'ordre de tirer pour disperser la foule. Et il y a six morts. Voilà. À l'époque, parce qu'on est avant juin 1848, c'est la première fusillade de cette ampleur, non pas pour des raisons politiques. Mmh. Il y a eu beaucoup d'insurrections politiques, les Trois Glorieuses de 1831.
32, 34,
Mais, alors déjà, les Canuts, ça a été interprété déjà comme un affrontement social, mais en partie, surtout qu'il y a eu 1834 qui était plus politique, et... Là, c'est 1846, c'est les réactions... Enfin bon, je passe, parce que c'est très long, il y a beaucoup de choses à dire.
Et alors, à part Charles Poncy, il y a aussi Léon Vell et Madame Baudinet, qui sont des exemples que tu aimes bien citer. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Oui, alors...
Léon Vell.
Alors, Léon Vell, il nous donne des visions fantastiques des mineurs, mais sa chanson... Pierre le Mineur, voilà. Sa chanson Pierre le Mineur est extrêmement triste et on peut l'écouter.
Écoutez cette simple histoire. Et surtout, n'en souriez pas. D'un pauvre mineur de la Loire, c'est l'existence et le trépas. Suivant la route ténébreuse que me dérobe le ciel bleu, sois mon soleil, lampe fumeuse, adieu, beau firmament, adieu. C'est ainsi, d'une voix plaintive, que murmurait un homme noir. Pierre, à la face maladive, à l'aspect effrayant à voir. Il dit, et dans ses bras il presse la compagne de ses douleurs, Jeanne, et son fils qui le caresse, d'un sourire sèche ses pleurs. Puis il descend. Descend encore dans l'humide et profonde nuit. Et la fièvre qui le dévore, la fièvre, descend et le suit. Plus il plonge en ses voûtes sombres, aux clartés du pâle fanal, plus il voit voltiger des ombres, grimaçant un rire infernal. Bientôt, l'air qui se raréfie, à peine arrive à ses poumons. Mais pour Jeanne, il se sacrifie dans cet asile de démons. Reprenant sa pénible tâche, la houille cède à ses efforts, il frappe et frappe sans relâche, la sueur inonde son corps. Et toujours, les mêmes fantômes l'entourent, se tenant la main, il reconnaît les hideux gnomes peuples de ce lieu souterrain. Tout à coup, dans l'étroit espace brille une fatale lueur. C'est lui, c'est le grisou, qui passe. Il a foudroyé le mineur. En vain, Jeanne arrive éperdue et veut encore le secourir. Son âme au Seigneur est rendue. L'homme noir ne doit plus souffrir. La voilà, cette simple histoire, et surtout n'en souriez pas, de Pierre, mineur de la Loire, c'est l'existence et le trépas.
Voilà, on vient d'entendre Pierre le mineur de Léon Vell, donc un texte qui est lu par Philippe Grenier, si je ne me trompe pas. Et Léon Vell, donc, auteur un peu particulier, non ? Tu voudrais
alors,
en dire quelques mots ?
Un peu particulier, non, et particulier comme tout le monde est particulier, ni plus ni moins. Léon Vell a écrit beaucoup de chansons très amusantes. Il y a des choses sur la vie stéphanoise, il y a une chanson sur le lycée Fauriel qui va peut-être s'effondrer parce qu'il y a des dégâts miniers à l'endroit où il est construit. Donc, bon, par exemple, hein, je signale ça. Et comment dire, non, par exemple, là, moi, ce qui m'a frappé, Léon Vell donc reprend cette thématique très triste du mineur. Hein, on peut pas trouver plus sinistre, franchement. Bon, et dans son cas, il n'était pas catholique puisque lui, il était juif. Bon, mais c'est un hasard. Voilà. Et c'est pas le seul à donner des images très tristes. Donc je voulais.
Oui. Alors Madame Boudinet. Voilà. Je voudrais parler de Madame Boudinet. Madame. Et de son texte sur la terrible catastrophe du puits Pélissier.
De la terrible catastrophe du puits Pélissier. Alors, Madame Boudinet, en fait, elle participe, c'est la gérante ou la co-gérante ou la femme du gérant, je ne sais pas très bien, d'une imprimerie parisienne spécialisée dans les chansons de colportage. Et qui donc en fabrique d'état à la tonne autant qu'elle peut, et sur tous les sujets sensationnalistes. En 1890, à la fin du 19e. Bon. Et donc, entre l'histoire de la petite Alice Neu qui a été épouvantablement assassinée et qu'on a retrouvée dans un canal, si mes souvenirs sont bons, et telle autre, et Reviens ma mignonnette, qui là est une chanson d'amour évidemment, on trouve la terrible catastrophe du puits Pélissier, sous-titre, découverte de nombreux cadavres, sous-titre, histoire dramatique. Hein, faut faire vendre, il n'y a pas de raison, faut pas s'en priver. Et alors, elle aussi, elle n'y va pas de main morte. Donc, elle nous explique que écouter la navrante histoire, hein, c'est l'introduction des complaintes, écouter la navrante histoire de ces victimes du malheur, travaillant dans une mine noire, leur triste sort saigne le cœur. Dans cet antre que la misère oblige tous ces malheureux, dans les entrailles de la terre, à travailler sous mille feux. Triste leur existence, sur eux plane la mort, cette terrible sentence doit décider du sort de ces pauvres victimes, qui, bravant les dangers au fond de ces abîmes, se trouvent foudroyés. Et là, c'est le refrain, bon, toute la suite est de la même encre. Ce qui est frappant dans son cas, c'est que Madame Baudinet ne connaît pas les mines, elle ne vit pas dans une région minière, et clairement, elle vise le maximum d'effets pour vendre. Mmh. Et elle a y compris d'ailleurs des accents contestataires à la fin. Moi, c'est un peu ce que je voulais dire à propos de Poncy. Poncy, à la fois, il a une vision très triste du mineur, et en même temps, il a des sentiments humanitaires, il se révolte, il traite l'industrie d'homicide, il trouve que les patrons ne font pas ce qu'il faut, mais comment dire ? Après, la question, c'est évidemment, est-ce que les images correspondent à la réalité ? Et jusqu'où, finalement, est-ce que ça aide de donner des visions terribles, épouvantables du sort des ouvriers ? Est-ce que ça aide vraiment à faire bouger la société ? J'en suis pas si sûr. Je me pose des questions là-dessus. Alors, Madame Baudinet, qui, elle, est tout à fait commerciale, excusez-moi, il faut que je retrouve la citation. Voilà, c'est le dernier refrain. « Maître que l'opulence abrite du malheur, dans votre insouciance, vous raillez la douleur. Que vous fait la misère de pauvres orphelins dont vous tuez le père par le manque de soins. » Alors là, elle aussi, hein, n'est-ce pas ? Elle a le drapeau rouge ou le drapeau noir et les pancartes. En fait, elle vise juste à vendre.
Oui, alors elle vise à vendre peut-être à un public ouvrier qui, des années 1890, est un petit peu plus conscient, un petit peu plus politisé, un petit peu plus... porté par la vague syndicale qui est en train de grandir quand même depuis la loi de 1884. Oui. Alors, il y a autre chose qui me frappe dans ce texte quand même, c'est, alors on le retrouve dans d'autres, mais celui-ci je l'ai sous la main donc j'en profite, c'est l'image du mineur héroïque et dévoué.
Oui, bien
sûr. Leurs camarades dans la mine descendent pour les secourir, pris d'un courage qui domine tous ces grands héros du martyr. Oui. Là, c'est une image qu'on va retrouver, et je pense en particulier à ce qui se passe... entre Saint-Étienne et Lyon, c'est un vieux débat. En 1944, on ne le sait pas beaucoup, mais les Lyonnais ont fait venir des mineurs pour déblayer des immeubles qui avaient été effondrés sur les bombardements. Et donc, on célèbre le courage, le dévouement de ces mineurs stéphanois. Il faut le rappeler quand même ici, hein, parce que quand certains supporters disent que leurs parents inventaient le cinéma pendant que les nôtres mouraient dans les mines, il faut rappeler aussi qu'il y a un moment où les Lyonnais étaient tout à fait satisfaits de ce que pouvaient leur apporter les Stéphanois. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, Madame Baudinet et Charles Poncy, et aussi Léon Vel, donc, nous donnent cette image de mineurs... maudits, de mineurs voilà, qui sont accablés par le sort. Alors, il y a en même temps ce discours que tu viens, le dernier refrain que tu viens de citer, hein, cette injonction au maître de l'opulence, enfin, cette invective plus exactement. Mmh. Alors, ça nous montre que l'image du mineur n'est pas toujours une image portée par la gauche, par les contestataires. L'image du mineur maudit n'est pas toujours une image portée par la gauche contestatrice.
Oui, en effet. Ah. Alors là, on le voit surtout au début du XXe avec les poèmes, parce que là, c'est surtout des poèmes, donc on sort un peu de la fête de la musique, mais les poèmes de Jean Tenant et d'Étienne Michel, le poème d'Étienne Michel, comment dire, d'un côté, il décrit un mineur dont la condition est assez mauvaise, bon, pas misérable, et de l'autre côté, c'est un mineur extrêmement déterminé, il a choisi de faire ça, pour le bien de la patrie, par choix patriotique et même nationaliste. Voilà.
Oui, alors c'est en fait, moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est qu'on est, il y a un certain parallèle qu'on pourrait faire avec l'actualité d'aujourd'hui, on est dans une lutte entre une certaine extrême gauche et une certaine extrême droite pour influencer le monde ouvrier, le monde prolétaire. Et la droite n'hésite pas à aller sur les terrains de l'extrême gauche en plaignant ces mineurs.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Et ça n'est pas nouveau, puisqu'on trouve déjà ça au début du XXe siècle, vers 1900. Oui. Donc, il y a des... Oui, alors... Et je dirais... voilà, les images des mineurs, il n'y a pas que des gens de gauche à en avoir produit, de très très loin. Bon, on a des images... Jean Tenant est un auteur maurassien de sa jeunesse. C'est un petit-fils de mineur, ses deux grands-pères étaient mineurs et ne savaient pas écrire. Il connaît très bien le milieu minier, il y a beaucoup réfléchi parce que clairement c'est très très loin d'être un imbécile. Oui. Et en même temps, il construit une espèce de poésie sociale... nationaliste à l'époque, hein, une sorte d'art poétique de Jean Tenant, et en même temps, il n'est absolument pas un homme de gauche, et il aurait pas apprécié qu'on le prenne pour un homme de gauche. Hein,
certainement pas. Et sans tomber dans l'anachronisme, finalement, il y a presque un appel à l'effort de guerre avant la guerre. C'est-à-dire que le mineur est celui qui va construire la puissance et la prospérité du pays qui va lui permettre d'affronter un éventuel ennemi. Et on sait bien qu'on regarde de l'autre côté des Vosges à cette époque-là.
C'est clair, surtout que la France s'est quand même fait écraser par la Prusse, par l'Allemagne en 1870, qu'elle a perdu l'Alsace et la Lorraine. C'est un énorme traumatisme national, énorme. Le roman de Zola le plus vendu à l'époque, c'est pas Germinal, c'est la défaite, la débâcle, oui. Et les années donc 1870, 1880, 1890, c'est celle de l'essor du nationalisme en France avec des roulettes justement qui servent de texte caché au poème d'Étienne Michel dont je parlais, mais il faut aller le chercher dans l'anthologie.
Oui. Non, mais on renverra les auditeurs à l'anthologie, bien sûr. Alors, on va quand même passer à l'image un peu joyeuse.
Oui,
hein,
oui.
Et pour commencer, on va écouter La Ronde des mineurs, texte de Joseph Biron, et interprété, je ne me souviens plus par qui. J'ai pas le disque là.
N'altère ma bonne humeur, mais très changeant par caractère. J'ai voulu parcourir la terre et toujours en brave mineur. J'ai travaillé dans la Bretagne et revins hier d'Allemagne. Triste pays pour un buveur, triste pays pour un buveur. Et je puis dire sans mentir, ça vous fera sourire, ça nous fera plaisir. Que le vrai mineur, bon garçon, brave quoi qu'il advienne. Que le vrai mineur est le vrai compagnon, c'est le mineur de Saint-Étienne. Et je puis dire, sans mentir, ça vous fera sourire, ça nous fera plaisir. Que le vrai mineur, bon garçon, brave quoi qu'il advienne. Que le vrai mineur est le vrai compagnon, c'est le mineur de Saint-Étienne. As-tu rencontré la gaieté, beaucoup de rouleurs de notre âge, ayant comme nous du courage, de l'ardeur sans témérité. À l'occasion, sachant boire, allons cherche dans ta mémoire. Réponds avec sincérité. Tu peux bien dire sans mentir, ça nous fera sourire, ça nous fera plaisir. Que le vrai rouleur, bon garçon, brave quoi qu'il advienne. Que le vrai mineur et le vrai compagnon, c'est le mineur de Saint-Étienne. Tu peux bien dire sans mentir, ça nous fera sourire, ça nous fera plaisir. Que le vrai mineur, bon garçon, brave quoi qu'il advienne. Que le vrai mineur et le vrai compagnon, c'est le mineur de Saint-Étienne.
Bien, donc texte La Ronde des mineurs de Saint-Étienne de Joseph Biron, interprété par Didier Pourrat. C'est bien ça. Cette fois-ci, on a retrouvé le nom de l'auteur. Alors, beaucoup d'images, finalement, aussi joyeuses, de mineurs joyeux.
Beaucoup, oui. Et donc, dès le début du 19e, puisque, entre autres, on a les poèmes de Guillaume Roquille qui montrent... des mineurs bons vivants qui s'amusent beaucoup et qui, d'ailleurs, quand on les emprisonne parce qu'ils font grève, dans la charrette qu'ils emmènent, ils chantent des chansons en l'honneur de Bacchus. Ni plus ni moins. Et dans Rive de Gier, on a les loisirs des mineurs aussi. Et là, la chanson de Joseph Biron, donc c'est en 1866. À l'époque, il est un jeune fonctionnaire de la préfecture. Il ne donne pas son nom. Et il fait un spectacle, enfin il écrit un spectacle qui est présenté au théâtre de Saint-Étienne sur les mineurs. Alors dont il nous reste que deux chansons. Le reste, on ne sait pas où est le texte. Mais il y avait ces deux chansons à la Bibliothèque nationale.
Mais il y a beaucoup d'autres auteurs.
Oui, des images joyeuses, il y en a beaucoup. Il y en a en particulier dans les revues théâtrales stéphanoises. C'est-à-dire qu'en fait, où il y en a chez Jacques Vacher aussi, l'ébéniste, poète, chansonnier, qui est quand même une sorte de monument stéphanois lui aussi.
Tout à fait.
Il y en a aussi d'ailleurs chez Rémy Doutre, qui était un ami de Jacques Vacher, fondateur avec Vacher du tout premier caveau stéphanois en 1869.
On va revenir sur le caveau, mais donc Jacques Vacher, auquel... Jean Lorsin et Anne-Marie Burpas ont consacré un livre tout à fait passionnant, publié il y a une vingtaine d'années déjà maintenant.
Oui, et le livre de Jean Lorsin et d'Anne-Marie Vurpas, c'est uniquement les chansons de Vacher en dialecte stéphanois.
Voilà, c'est ça.
Uniquement.
C'est ça.
C'est-à-dire que Jacques Vacher a écrit plus de 600 chansons. Ses manuscrits, alors, vous allez voir, pas la totalité, il en manque quelques-unes, mais je vais expliquer pourquoi. Ces manuscrits sont conservés à la médiathèque municipale de Saint-Étienne. Donc il y en a, mais vraiment, ça fait épais, il y en a beaucoup, et j'ai tout regardé. Bon, y compris trouver des choses inédites que Vacher n'avait pas osé publier de son vivant, parce que c'était trop méchant pour les directeurs de sociétés minières. Alors, il n'y a pas tout dedans, parce que en 1872, Vacher est impliqué, est arrêté dans le cadre de l'enquête sur l'Alliance républicaine de Terre Noire. Et il est perquisitionné, la police saisit ses manuscrits, donc toutes les chansons qu'il avait en manuscrit à ce moment-là. Il fait 2 mois de prison préventive. Finalement, le procès tombe à l'eau pour une raison assez simple. On peut difficilement condamner les gens pour avoir participé à une association dont faisait partie le préfet de l'époque, qui était César Berthelon.
Ouais.
Voilà. Et donc, Vacher est libéré, mais il a perdu un certain nombre de ses chansons dans cette histoire-là.
Alors, ces chansons, ces textes joyeux, tu vas nous dire qu'ils appartiennent, qu'ils se rattachent à certains courants philosophiques, à certains modèles littéraires. Et puis on parlera après de ce que représentait la revue théâtrale ou les revues théâtrales stéphanoises.
Alors ma question ensuite, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a ces images joyeuses qui contrastent tellement avec les images épouvantables qu'on a vues tout à l'heure. Et bon, il y a une chose évidente, par exemple, c'est les traditions satiriques et burlesques qui reviennent au Moyen-Âge, et là encore... bien avant, puisque dans l'Antiquité aussi, on a des choses comparables. Donc, on voit que cette tradition burlesque, rabelaisienne, continue au XIXe siècle. On a les courants philosophiques épicuriens, bon ça c'est lié aux sociétés chantantes et en particulier au caveau de Paris. Voilà, je cite un chansonnier qui est extrêmement célèbre au XIXe, c'est Béranger.
Oui, bien sûr.
Qui est chanté dans tous les milieux pratiquement. Et la philosophie de Béranger, c'est une philosophie épicurienne. C'est pas du tout ce que disait la religion catholique à l'époque. C'est plutôt prenons le bonheur aujourd'hui, tout de suite. Profitons de tous les plaisirs et on verra bien après. Bon, voilà. On a alors dans ces raisons aussi de donner des images joyeuses, on a aussi ce que j'appelle le modèle de l'ouvrier bon garçon qu'on trouve d'ailleurs dans la chanson de Biron. Le critique du Mémorial de la Loire, donc du journal conservateur, a écrit à l'époque que les mineurs de Biron, enfin de mineurs de ce spectacle, puisque l'auteur était inconnu, mineurs de ce spectacle devaient plus aux ouvriers du faubourg Saint-Antoine qu'aux mineurs de Saint-Étienne. Je crois qu'il avait raison.
Mmh.
Et donc, à l'époque, on trouve énormément de chansons sur les métiers. Et le modèle, c'est l'ouvrier bon spécialiste qui chante en travaillant, qui voyage beaucoup. Hein, c'est comme ça.
Girovague.
Pas Girovague, c'est le compagnonnage d'une part. C'est aussi le fait qu'il y a énormément de déplacements pour des raisons professionnelles et qui sont acceptés, tout comme les patrons anglais dans la métallurgie de la Loire font venir des ouvriers anglais pour apprendre au français, tout comme un spécialiste, je ne sais pas moi, un sabotier va là où il peut trouver du bois pour faire des sabots. Enfin, il y a vraiment énormément de déplacements professionnels, on les sous-estime un peu. Donc ce modèle de l'ouvrier qui chante en travaillant, si on résume entre pauvre mineur, mineur joyeux, c'est est-ce que le mineur est trop triste pour chanter ou au contraire, est-ce qu'il chante en travaillant, je dirais, comme tout le monde. Voilà. Et puis on a les revues théâtrales stéphanoises.
Donc la mise en scène de l'ouvrier, du travail ouvrier dans les revues théâtrales.
Alors,
c'est un peu ça.
Non,
ça, pour expliquer ce que c'est que ces revues
théâtrales. Oui, oui, oui. Alors, les revues théâtrales, c'est un spectacle de café-concert. Oui. Ça, c'est essentiel. Café-concert, c'est des salles où à la fois on peut consommer des boissons alcoolisées et où il y a toutes sortes de spectacles en même temps. Vous pouvez entrer pendant le spectacle, et vous pouvez commander à boire, parfois à manger, et puis en gros le spectacle est fait pour que vous ayez envie d'entrer dans cette salle-là et pas une autre, pour que vous restiez, pour que voilà. Et donc les cafés-concerts embauchent des troupes à l'année, des troupes itinérantes qui vont là où elles peuvent. Et la tradition, c'est qu'à la fin de l'année, quand elle a fini son année, la troupe présente un spectacle sur l'actualité dans la ville en question, sur l'actualité de l'année écoulée dans la revue, dans la ville en question. C'est pour ça qu'on appelle ça une revue. C'est une revue de ce qui s'est passé. C'est comme il y a des revues de presse, c'est pareil. Et c'est des spectacles alors humoristiques déjà, très drôles. Donc un spectacle humoristique, c'est rarement triste, c'est un peu incompatible. Et comme ça se faisait à l'époque, c'est-à-dire à la fois avec des jolies dames avec des belles robes, parce que ça comptait beaucoup dans l'attractivité du spectacle, des tours de chansons, des choses à grand spectacle, plein de monde sur la scène. Voilà, ils essayaient d'en jeter un max, quoi.
Et en lien avec l'actualité.
Voilà, puisque la revue parle de ce qui s'est passé, par exemple, la revue théâtrale à Saint-Étienne parle de ce qui s'est passé à Saint-Étienne dans l'année précédente et d'une manière humoristique. Alors, on a des choses extrêmement drôles. Et moi, j'invite les historiens locaux ou les historiens de Saint-Étienne à se pencher sur ce genre de choses. Parce qu'en plus, il y a une belle série à la médiathèque municipale et dans le fond du musée du vieux Saint-Étienne. Par exemple, au moment de l'affaire Ravachol, Ravachol a été arrêté brièvement par la police de Saint-Étienne.
Mais au début des années 1890.
Voilà, voilà. Et Ravachol, l'auteur d'attentats, bon, qui mériterait lui aussi des émissions ici, il y a tout un tas de choses à dire. Et donc, il est arrêté par la police de Saint-Étienne, mais alors, elle n'est pas très fine. Il arrive à leur fausser compagnie dans les 2 heures. Bon. Et Ravachol n'a pas encore été arrêté. Il n'a pas encore commis ses principaux attentats à Paris. La revue stéphanoise de l'époque, de l'année, parle, le personnage principal, non, il ne s'appelle pas Ravachol, il s'appelle Chavarol. Il fait le tour de la ville et devinez qui lui sert de guide, la police.
D'accord.
Bon, voilà. Oui. Et après, il discute, je crois que c'est lui qui discute avec l'horloge de l'hôtel de ville et avec le puits Saint-Étienne, qui évidemment est un puits imaginaire. Bon, alors dans le même genre, mais je ne crois pas que ce soit dans celle-là, il y a aussi évidemment le forgeron et la rubannerie qui encadrent l'escalier de l'hôtel de ville, qui décident qu'ils en ont assez de s'ennuyer sur cette place où ils ne peuvent pas bouger, voilà, et qui décident d'aller faire le tour de la ville et qui sont guidés par l'agence Fournier, c'est la principale agence publicitaire de l'époque.
Alors la chanson est extrêmement présente, c'est pour ça que nous en parlons aujourd'hui puisque c'est la fête de la musique. On vient de réaliser, plutôt de montrer que c'est un vecteur de l'information, c'est un moyen d'informer les gens, avec une information évidemment très orientée, hein, parce que les chansonniers, ils aiment bien manier l'humour. Sur les marchés aussi, on a des interprètes qui vendent des partitions qu'ils interprètent. Alors, je pense en particulier à une scène du Jugé à l'assassin où on voit Jean-Roger Caussimon qui chante la chanson de l'assassin, donc ce film des années 70 qui se passe aussi dans cette période. Et il y a aussi des sociétés chantantes, notamment le fameux caveau stéphanois. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots?
Oui, je vais un peu compléter ce que tu dis. Déjà sur le colportage, la chanson de colportage, en fait, il y en a eu en France jusque dans les années 1950. C'est-à-dire les chanteurs qui, c'était à la limite de la mendicité, hein, mais comme on a aujourd'hui, de temps parfois, un musicien dans la rue qui n'a rien demandé à personne et qui a mis un chapeau devant lui pour recevoir quelques sous. Simplement, c'était extrêmement répandu. Et donc, le principe, c'était le chanteur qui chante dans la rue ou dans les cours d'immeubles. Et Bon, dans les cours d'immeubles, là, parfois, simplement, ils attendaient que les pièces, que les gens envoient des pièces depuis leurs fenêtres. Et alors, dans la rue, quand il y avait suffisamment un cercle de personnes suffisamment grand autour, ils disaient, eh bien voilà, achetez la chanson du pauvre Jean-Baptiste, là je pense à Jean-Baptiste Rousseau, un des chansonniers. Et ils vendaient, c'est comme ça qu'on connaît les chansons, des feuilles volantes, des petites feuilles qui vendaient 5 sous, donc une toute petite somme. Et c'était la façon de faire. Voilà. Et des chansons de colportage, donc il y en a eu des tas sur tous les sujets, et en particulier évidemment sur les crimes, les catastrophes, les choses extraordinaires. Donc oui, la chanson de l'assassin, c'est, comment dire, il a fait une scène absolument typique, mais il faut savoir que ça a duré donc au moins tout le 19e et jusque dans les années 1950, on en trouve des traces. Et les feuilles volantes, pour nous, sont très précieuses parce qu'elles nous ont permis de conserver les textes.
Alors, le caveau stéphanois. Le caveau stéphanois, c'est une société chantante, on dira, créée dans les années 1880, plutôt de gauche, qui va être récupéré par l'extrême droite au tournant du siècle.
Non. Alors bon, là encore, je vais apporter des nuances
C'est pour ça qu'on t'a invité.
Oui. D'abord, c'est une des sociétés chantantes stéphanoises. Il y en a eu d'autres, bien sûr. Alors ensuite, moi, je dirais qu'il y a eu 4 ou 5 caveaux stéphanois successifs. Oui, déjà, il y a le premier, c'est celui de 1869. C'est à l'initiative de Rémy Doutre qui va chercher Jacques Vacher et qui met Jacques Vacher comme président. Et ils se réunissent dans une guinguette du côté du Val du Furet, donc pas très loin d'ici finalement. Voilà. Et puis évidemment arrive la guerre. Doutre s'engage pour faire la guerre contre les Prussiens. Ça disperse tout le monde. Et donc le caveau stéphanois de 1869 dure pas très longtemps. En 1882, Jean-François Gonon, qui est un fanat de chansons, mais depuis son tout jeune âge, monte avec des amis, dont Rémy Doutre et dont Jacques Vacher, le caveau stéphanois. Et ils le fondent à ce moment-là. Alors à ce moment-là, en 1882, c'est effectivement un rassemblement de chansonniers républicains et même souvent révolutionnaires. Moi, j'ai épluché la collection du Moniteur du caveau stéphanois de 1882 à 1914. Ça fait une bonne longueur. Ça fait pas mal de travail. On voit bien qu'à ce moment-là, c'est un rassemblement de chansonniers très à gauche, quoi. Et ça se voit dans les textes des chansons, évidemment. Bon. Et puis, le caveau stéphanois a beaucoup de succès. Il ramasse beaucoup de monde. Et entre autres, des personnes à qui cette orientation ne plaît pas beaucoup. Et en 1891, Jean-François Gonon met un peu le feu aux poudres parce qu'il publie son recueil de chansons. Il a publié un recueil de chansons dans sa vie, c'est celui-là, c'est même pas très épais. Et il tient à mettre dedans une chanson à l'honneur de Louise Michel. Et alors là, ça ne plaît pas du tout à Pierre Duplay, qui se fait appeler le Paré Barunta, enfin, je ne sais pas si je prononce bien, qui déclare aussi, et ça c'est un peu plus amusant, qu'il est le Mistral du Forez. Bon, mais qui a écrit aussi des poèmes assez intéressants que vous retrouverez dans l'anthologie. Et si vous voulez en savoir plus sur Pierre Duplay, c'est pareil, je vous renvoie à l'anthologie. Il y a une notice assez fouillée. Bon, c'est aussi un personnage assez extraordinaire à sa manière. Donc Pierre Duplay, en tout cas, ça ne lui plaît pas du tout. Et il arrive à finalement faire expulser Jean-François Gonon de la société qu'il a créée.
Voilà. Il y a une lutte idéologique
et politique.
Qui est intéressante. Encore une fois, avec l'enjeu d'une certaine contrôle sur partie de la population, de la classe ouvrière.
Spécifiquement de la classe ouvrière. De la classe ouvrière, parce que...
Prendre un thème pour le retirer, l'amener du côté plutôt nationaliste, extrême droite.
Pour le dire autrement, Pierre Duplay, il est clairement du côté conservateur. C'est que c'est un traditionnaliste. Il rêve d'un âge d'or dans le passé, qui n'a jamais existé.
Oui.
Mais bon,
ça c'est... chez les traditionnalistes, c'est assez fréquent, effectivement.
Voilà.
L'âge d'or.
Voilà, ce paradis perdu, et qui n'est plus là, etc. C'est aussi un fervent défenseur de Saint-Étienne contre absolument le reste du monde. voilà.
Alors, pauvre mineur. Joyeux mineur, on a vu un peu...
Le mineur héros qui est un thème très important héroïque. Aussi, qu'on aurait pu traiter.
Un petit mot quand même sur les femmes, parce qu'il y a peu de chansons spécifiquement rattachées aux femmes. Il y a de Léon Vel, la veuve du mineur. Alors moi, j'ai été frappé par cette chanson qui s'intitule « Le mineur trahi par son pensionnaire ». Et par les trieuses de pierre. Les trieuses de pierre, parce que si on compare ces deux textes, il n'y a pas. Bon, on n'a pas le temps d'y consacrer beaucoup, mais il me semble qu'il ressort quelque part l'idée d'un mineur un peu benêt, un peu veule, qui se fait manipuler par les femmes. Donc je vois dans les trieuses de pierre, il se fait piquer, enfin voilà, Madeleine se fait piquer son amoureux par Catherine, mais c'est entre les femmes que ça se passe. C'est pas lui, il n'a pas grand-chose à dire. La Madeleine réclame son bon ami. C'est toi, Catherine, qui me l'avais pris. Tu me le payeras, je te le dis. Et après, bon, elle se bagarre. Alors, donc, les hommes font cercle autour. Il y a tout un spectacle. Il y a un côté un peu farce dans ce texte, comme d'ailleurs dans le mineur trahi par son pensionnaire. Autrement, l'image qui domine, qu'on voit dans beaucoup de textes, c'est celle de la mère, de la sœur ou de la fille qui vient... à la grille du puits pour aux nouvelles quand il y a l'annonce d'une catastrophe. Voilà.
Enfin, oui, alors là, c'est vrai que ça, c'est un complément qu'il faudrait apporter au livre. Je n'ai pas spécifiquement travaillé sur les images de femmes dans ces chansons. Il faudrait que quelqu'un me demande un article, une communication
oui,
sur le sujet.
À venir, effectivement.
voilà, pour que je reprenne les choses. C'est trop long.
Oui. Eh bien, on va donc d'abord conseiller aux lecteurs, aux auditeurs, de...
Je proposais juste, Jean-Michel, excuse-moi, oui. Je proposais juste qu'on écoute les trieuses de pierre éventuellement.
Oui, si tu veux.
On peut en mettre un extrait. Oui.
Les jeunes filles et les petits garçons travaillent aussi dans les charbons. Il faut vite souffler la chandelle. Voici la cloche qui nous appelle, quittant le seuil de la chaumière pour travailler à la carrière. Et pour gagner le pain de la famille vont travailler les jeunes filles. Les jeunes filles, elles n'ont pas peur de dans les pelletés des chargeurs. Malgré le froid et la chaleur, choisissent les pierres avec ardeur. Dans les tombereaux ou les wagons, elles sautent très bien sur les tampons. Que ce soit au tas ou sous les cribles, choisissent les grosses ou les petites.
Ah, quelques mots sous l'auteur Jean-Baptiste Rousseau de cette chanson Les Trieuses de Pierre, qui était interprétée ici par Philippe Grenier.
Oui, alors Jean-Baptiste Rousseau, en fait, de tous les chansonniers de l'anthologie, c'est celui qui connaît le mieux le milieu minier. Lui-même a travaillé dans les carrières à Ramblais. Il est devenu aveugle par un accident du travail ou une commotion, enfin on ne sait pas très bien. Et ensuite, il s'est fait chanteur des rues, justement, spécial en faisant le tour du bassin de la Loire et en vendant ses chansons. Et en les chantant. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'il nous apporte un regard sur les mineurs et sur le milieu minier, qui finalement est tout à fait original tout à fait désacralisé
voilà,
aussi.
C'est ça. C'est peut-être le plus vivant finalement de tous ces auteurs qu'on retrouve donc, que vous retrouverez, que les auditeurs retrouveront dans cette magnifique anthologie « Pauvres mineurs, mineurs joyeux, chansons et poèmes sur les mines et les mineurs de la Loire, 1815-1914 ». Un travail qui a été préparé, élaboré et magnifiquement interprété par Jean-Paul Gachignard, qui était notre invité aujourd'hui. Pour finir, on rappelle que Le Grémos vient de sortir un livre dont nous vous conseillons la lecture, « Monde ouvrier face à la Grande Guerre ». On peut encore le commander en écrivant au Grémos 26 rue Arago à Saint-Étienne, 42 100. Dire aussi qu'à la rentrée, nous reprendrons nos émissions chaque troisième jeudi du mois. que nous commencerons sans doute par une émission sur la Bourse du Travail, deuxième volet de cette enquête que nous avions commencé avec Maurice Bedouin et qui portera plutôt sur l'avenir du bâtiment. Vous pouvez aussi encore pour 3 jours courir à l'exposition d'Yves-Yvon à la Galerie Noir et Blanc, rue Brossard, exposition sur les événements de mai 68, dont nous vous conseillons évidemment d'y faire un tour et de l'examiner attentivement. Enfin, nous consacrerons au moins deux journées la saison prochaine avec notre partenariat à la Cinémathèque, le 20 novembre avec une présentation du livre dont je viens de parler autour d'un film sur la guerre de 1914, et le 1er février, un après-midi et une soirée consacrée au film de Richard Berthollet et Marion Fontaine, « Sous l'œil des houillères », qui revient sur l'organisation du flicage des ouvriers après la grève de 1948, et ce jusque dans les années 1970. Nous enregistrerons d'ailleurs à cette occasion, Lionel, une émission spécifique avec Marion Fontaine autour de son livre et de son film. Merci à tous.
Et puis peut-être juste pour compléter Jean-Michel, puisque nous sommes dans l'histoire minière, on rappelle quand même qu'il y a eu une commémoration il y a quelques jours de cela. Je vois que c'est abordé dans la playlist aussi, finalement, la sélection musicale qui a été faite au sein de l'ouvrage. C'est la fusillade du Brûlé. Vous avez parlé de fusillade d'avant 48. Il y a eu cette fusillade du 16 juin 1869 avec une belle commémoration faite dimanche dernier, 16 juin, du côté de la Ricamari. Et puisque nous sommes encore dans les commémorations, on rappelle la catastrophe du Puy qui approche, c'était le 30 juin 1928, si je ne me trompe,
exactement.
Jean-Michel.
Oui, tout à fait.
Et puis juste pour compléter encore sur peut-être un événement là, qui approche, parce que c'est le 75e anniversaire de la mort de Jean Moulin, et il y a eu un parcours urbain proposé la semaine dernière, et c'est une visite commentée qui est à nouveau proposée ce 23 juin, à partir de 15h, c'est les médiateurs du Centre de la Résistance et de la Déportation, Centre d'Histoire Lyonnais, qui guident dans l'exposition permanente en se concentrant sur donc l'unificateur de la résistance et son action à Lyon, capitale pour un temps de la France résistante. Voilà, c'est au CHRD pour le 75e anniversaire de la mort de Jean Moulin. Je voulais juste compléter avec ces dernières infos.
Juste une dernière chose, puisque tu parles de la catastrophe du Puy-Combes, je voulais saluer Jean-Paul Gachignard qui était notre hôte et rappeler qu'il est en train de travailler sur les catastrophes minières et qu'il va nous produire quelque chose de tout à fait intéressant dans les mois ou les années à venir.
Le parc musée de la mine du Puy-Couriot a des projets sur les catastrophes minières. C'est pas pour cette année, donc il faudra attendre un peu, mais ça va venir.
Merci beaucoup.
On replonge une dernière fois en guise de générique de fin dans ces chansons sur les mines et les mineurs de la Loire. On a écouté Philippe Grenier à l'instant et Jean-Baptiste Rousseau donc sur les trieuses de pierre. On les retrouve à nouveau tous deux pour ce titre-là, Les mineurs à la ronde du bassin de la Loire, 1872. Peut-être Jean-Paul, le mot de la fin pour présenter, annoncer ce titre.
C'est Jean-Baptiste Rousseau, le chanteur des rues, qui assez misérablement gagnait sa vie en allant chanter sous les fenêtres des mineurs. Voilà.
On termine là-dessus. Bonne fin de journée.
Merci.
Bonne fin de saison. On se retrouve à la rentrée prochaine.
À la Ricamari, nos courageux mineurs travaillent à la chaleur, tout rempli de sueur, profonde sous la terre, sans voir ni ciel ni jour. Nous terminons nos jours aussi à Firminy, travaillant jour et nuit. Le gaz dans sa furie nous fait perdre la vie. Dedans le puits Thomas, le gaz ne plaisante pas. Il ne faut qu'une seconde pour nous rendre dans la tombe. À Roche, c'est de même, travaillant avec peine, nos courageux mineurs travaillent avec ardeur. Les mineurs stéphanois ne reculent pas, ils posent de gros bois dedans plusieurs endroits. C'est pour nous préserver, bien souvent du danger. Si toutefois on entend ces petits bois craquer, c'est l'avertissement d'un grand éboulement. Il ne faut pas tarder de vite se sauver. Voyez tour à tour les bennes arriver au jour, mais si elles arrivent au port, c'est par la sueur du corps de nos bons travailleurs. Gloire, honneur aux mineurs. Gloire, honneur aux mineurs. Mineurs de Villars ne sont pas en retard. De bon matin se lève, le visage blafardise. Adieu à leurs femmes, à leurs petits-enfants. Adieu à leurs parents. Ils partent en bonne santé affronter les dangers. Mais quelques heures après, souvent on entend dire que de tristes nouvelles, nos mineurs sont brûlés dans tous les environs. On meurt du charbon pour chauffer les salons et bien d'autres maisons, et aussi les usines où l'on chauffe les machines pour faire de la vapeur. Ça provient des mineurs, car dans les fourneaux du charbon il en faut. Cela fait travailler plusieurs mille ouvriers. Mineurs de la Talo, pont de l'âne, côte tiolière, travaillent sur la pierre et aussi les rochers, vont frapper du maillet. Voyez tour à tour les bennes arriver au jour, mais si elles arrivent au port, c'est par la sueur du corps de nos bons travailleurs. Gloire, honneur aux mineurs. Gloire, honneur aux mineurs. Avec le gouverneur, soyez toujours amis. De manquer le lundi, de manquer trop souvent, pour avertissement, on nous donne de l'argent. Mais à la chasotte, on nous met à la porte. On nous met bien à pied pour partir à Sorbier. Mineur de Saint-Chamond, votre charbon est-il bon? Il est bien assorti, oui, on en brûle à Paris. Dans tous les environs, on nous dit qu'il est bon. Mineur de la Grand-Croix, ne tremble pas de froid. Et la lampe à la main, tout le long du chemin, arrivent à la carrière, portant de la lumière. Nos courageux mineurs vont sentir la chaleur. Mineurs de Rive-de-Gier, arrivant au chantier, aussi dans ces rochers, vous frappez du fleuret. De danser des pilages, travaille avec courage, rouleur aussi charrière, travaille de bon cœur. Voyez tour à tour les bennes arriver au jour, mais si elles arrivent au port, c'est par la sueur du corps de nos bons travailleurs. Gloire, honneur aux mineurs. Gloire, honneur aux mineurs. Mineurs de Givors, vous cherchez le trésor dans ces noirs mérians, vous gagnez de l'argent blanc. Si un accident arrive, ne vous chagrinez pas, vous aurez quelques jours la caisse de secours. Les mineurs à la ronde, qui sont en si grand nombre, quand Sainte-Barbe arrive, on célèbre la fête de notre protectrice. Nous allons à l'office prier notre patronne, que jamais elle ne nous abandonne. Voyez tour à tour les bennes arriver au jour, mais si elles arrivent au port, c'est par la sueur du corps de nos bons travailleurs. Gloire, honneur aux mineurs. Gloire, honneur aux mineurs.